La France bouge, vous accompagne jusqu'à 14h et c'est l'heure, Raphaël Duchemin, de la solution d'Elisabeth Assayag.
Oui, accéder à un emploi en CDI, c'est vrai que c'est souvent l'objectif des salariés, plus de sécurité. Elisabeth, une plateforme a été créée il y a quelques mois seulement et c'est moncdi.fr.
Oui, faire en sorte que le plus grand nombre de personnes qui sont au chômage ou en intérim obtiennent un CDI. Plus de 4 millions de personnes en France vivent dans cette insécurité professionnelle. On dénombre environ 2 millions d'intérimaires, 2 millions de salariés en contrat à durée déterminée. Et c'est une société d'intérim qui s'appelle PSC qui a lancé cette plateforme moncdi.fr qui propose donc des CDI à des contrats courts. En gros, chaque personne peut candidater sur le site pour obtenir un CDI. L'entreprise les embauche et les place au sein d'autres entreprises pour des missions. C'est une sorte de CDI d'employabilité. Bonjour Philippe Bazin.
Bonjour.
Alors comment ça marche? Parce que pour celui ou celle qui nous écoute qui est au chômage, j'imagine que ça peut leur redonner espoir.
Oui, alors une toute petite correction préalablement, nous ne sommes pas une société de travail temporaire, mais une société de travail à temps partagé.
À temps partagé.
Voilà, donc c'est une toute petite précision, mais je tenais à la faire. Et en fait, comment ça fonctionne? C'est très simple. Toutes les personnes vont s'inscrire sur le site pour demander un CDI. Elles seront contactées très rapidement, sous 72 heures. Et à partir de là, on a deux cas de figure. Soit on a des personnes qui sont demandeuses d'emploi, donc elles vont répondre à des annonces ou prises en charge par nos équipes. Ou alors, comme vous le disiez très justement, elles sont à l'emploi, mais en contrat court, en intérim ou en CDD. Et à ces personnes, on leur dit tout simplement, aujourd'hui, vous pouvez convertir votre contrat court en CDI très rapidement. Allez voir l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Dites-leur que vous avez le droit à un CDI. C'est la moindre des choses. Ce sera notre CDI. Ils continueront à travailler dans l'entreprise dans laquelle ils sont, mais en CDI grâce à nous.
Donc, c'est vous l'employeur?
C'est nous l'employeur, tout à fait.
Et l'entreprise dans laquelle travaille donc le salarié pourra garder, conserver ce CDI pendant plusieurs années? Il y a une durée limitée?
Pendant plusieurs années, jusqu'à 5 ans, puisqu'on estime que 5 ans, c'est une bonne durée pour développer l'employabilité de nos salariés, puisque c'est le but de notre activité, bien évidemment. Et sachant qu'au-delà de 5 ans, arrivé à 5 ans, plus de 60% de nos salariés sont embauchés par nos clients.
Donc, ils demandent des formations peut-être pour ce...
Oui, ils demandent des formations bien évidemment, mais en fait, on arrive à ce taux qui est très important pour une simple et bonne raison. C'est que d'abord, ils sont dans un système épanouissant parce qu'ils ont un CDI de droit commun. Nous les formons puisque nous doublons le CPF, donc les heures de formation. Le budget formation est doublé, c'est-à-dire qu'à 5 ans, ils bénéficient de plus de 5 000 euros de formation. Et bien évidemment, c'est tout simplement, on va dire, un tiercé gagnant où le salarié est stabilisé, il est formé. Dans beaucoup de cas, il va être embauché par les clients.
Qu'est-ce qui fait qu'il ne l'embauche pas directement, mais qu'il l'embauche parce qu'il passe par vous?
Alors, tout simplement parce que...
Il y a un filet de sécurité?
Alors, il y a un filet de sécurité, bien évidemment, puisqu'ils sont embauchés en CDI. Mais en fait, les entreprises rêveraient d'embaucher en CDI, bien évidemment, parce que le CDI reste quand même la norme. La précarité n'est pas la norme, certainement pas. Le CDI est la norme. La seule différence, c'est qu'il faut être en capacité d'embaucher en CDI. Donc nous le faisons, c'est un filet de sécurité pour les entreprises, bien évidemment. Nous les formons, et à un moment donné, ils sont embauchés. Donc, on va dire que ça concerne effectivement beaucoup de personnes.
Sylvain?
Juste pour comprendre, quel est le modèle économique? C'est-à-dire, qui paye qui?
Alors,
comment vous gagnez de l'argent, pour faire simple?
Le client nous paie exactement de la même manière qu'une société de travail temporaire pour le coup. Ça, on fonctionne avec un coefficient de facturation à l'identique du travail temporaire en France. C'est exactement la même chose. Mais encore une fois, j'insiste, les entreprises rêvent d'avoir des personnes en CDI. La précarité n'étant pas la norme, quand bien évidemment 2 millions de personnes, 2 millions de CDD, et puis on peut rajouter aussi à cela 1 million de contractuels dans la fonction publique, ça fait beaucoup de monde qui sont dans la précarité. Mais tout simplement parce qu'il faut proposer un système différent aux entreprises et leur dire la précarité, c'est une chose, mais vous pouvez avoir plus en termes de services de la part des salariés s'ils sont embauchés en CDI. Donc, et c'est ce que nous faisons.
Quel type de secteur d'activité? Quels sont les profils que vous recrutez le plus?
Alors, tout secteur d'activité, bien évidemment, on a un tropisme tout simplement, c'est la production. Donc 80% de nos salariés sont en production, sont des opérateurs de production sur ligne, des caristes, des manutentionnaires,
des chefs de ligne. Par exemple.
La logistique, l'industrie, toute industrie, chimie, métallurgie, bref, les laboratoires, tout secteur d'activité.
Et vous pensez à quel type de profil? Ça reste plutôt senior ou tout type de profil? Alors, confondu?
C'est tout type de profil, bien évidemment.
Mais qu'est-ce que vous retrouvez le plus?
Aujourd'hui, ce que l'on retrouve le plus, ce sont des personnes de moins de 25-30 ans, c'est à peu près 30% de nos effectifs, mais également 20% de nos effectifs, ce sont des plus de 50 ans.
Vous avez démarré il y a peu,
Alors, la société existe depuis 2011.
La plateforme, en
voilà.
tout cas.
Hein. La société, effectivement, existe depuis 2011. La plateforme, nous l'avons lancée depuis 2 mois. Tout
Alors,
simplement.
Combien d'inscrits? Combien de personnes
Alors,
sont déjà venues taper à votre porte?
On a plus de 5000 inscrits en 2 mois. Donc, c'est assez, on va dire que c'est à la fois important et faible. Mais tout simplement, aujourd'hui, il s'agit de faire les choses correctement pour s'assurer qu'on sera capable de traiter la totalité des personnes. Mais ce qui est le plus important, c'est que sur ces 5000 personnes, il y en a à peu près 450 aujourd'hui qui nous ont... Exactement. Qui sont capables de dire, voilà, je peux transformer et je transforme mes CDI. C'est ça qui est bien.
Et ça s'appelle moncdi.fr. Merci d'être venu
Merci
nous
beaucoup.
Présenter cette solution aujourd'hui sur Europe 1.
Une belle après-midi, il est midi 58.
Europe 1.
Vous restez avec nous, on revient dans 10 minutes avec votre dossier du jour. Gros plan aujourd'hui sur les transports scolaires, comment les améliorer, de quoi auriez-vous besoin? On vous attend Twitter et le 3921. A tout de suite.
Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
La France bouge de retour et aujourd'hui, rentrée scolaire oblige. Vous avez tous emmené vos enfants à l'école, au collège ou au lycée, à moins qu'ils n'y aillent par leurs propres moyens. Venez, on vous attend, Céline.
Oui, écrivez-nous sur Twitter avec @Europe1. Vous pouvez aussi nous appeler. Le standard d'Europe 1 vous est ouvert. 39,21, c'est 50 centimes la minute.
Eh oui, ça y est. Ça y est, c'est reparti, la rentrée est là et chaque année, nous parents, nous avons froid dans le dos quand nous entendons le récit de ces enfants qui se sont endormis au fond du car de ramassage scolaire et qu'on a oublié dans le bus. Alors, pour que cela ne se reproduise plus, eh bien, une start-up a eu l'idée de créer Gemini. Bonjour Sébastien Trémet.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes le fondateur de Groupe Peer, on dit Groupe Peer ?
Parce qu'il y a deux gros pires technologies. Oui.
Bon, et vous commercialisez un badge connecté. Il est là, je l'ai avec moi. Si vous êtes sur Europe1.fr, vous allez le découvrir. Badge qui enregistre chaque montée et chaque descente d'un enfant quand il est dans le bus.
Oui, tout à fait. En fait, c'est un badge qui remplace la carte de transport habituelle. La carte de transport, elle permet une validation à la montée, c'est tout, quand elle est faite, parce que souvent les enfants ne le font pas. Et donc ce badge, il va permettre de prendre en compte tous les enfants qui montent, tous les enfants qui sont dans le car durant la durée de leur trajet, et la descente. Et donc s'assurer, comme vous le disiez, qu'aucun enfant ne reste dans le car à l'issue du circuit. Et puis développer des services qui sont très très riches pour les collectivités locales, pour les exploitants, mais aussi pour les parents. Et puis améliorer l'expérience des enfants.
Ça signifie qu'à chaque fois qu'un enfant oublie de descendre, je parlais tout à l'heure des enfants qui s'endorment au fond du bus, ça arrive, le chauffeur du bus, lui, va recevoir sur son téléphone ou sur peut-être autre chose, un message pour lui dire attention, il reste un enfant dans le bus.
Oui, alors le chauffeur du bus, il a effectivement un terminal qui est comme un smartphone, sur lequel tourne une application mobile professionnelle qui va lui donner plein d'indications. Est-ce qu'il est en avance? Est-ce qu'il est en retard? Est-ce qu'il y a
un arrêt qui
ne peut plus être desservi, etc. Et puis, à la fin du service, effectivement, l'application va checker. C'est pour ça d'ailleurs que l'application s'appelle T-Check. Va checker qu'aucun enfant n'est resté à bord. Et si c'est le cas, va prévenir le conducteur, mais aussi l'exploitant, qu'il y a un souci et que donc il faut vérifier.
Alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'au départ, vous n'aviez pas du tout fait ça pour le bus scolaire. C'est vos amis savoyards, je crois, qui avaient besoin de compter les enfants pour les cours de ski. C'est comme ça, en tout cas, qu'est née l'idée.
Alors oui, au départ, l'idée est née de développer une technologie qui permette de compter des gens très rapidement et très simplement. Et donc, la première cible, ça a été les moniteurs de ski, puisque l'idée venait d'eux, pour leur permettre de compter leurs
ils
élèves.
Ils vous ont dit, Sébastien, tu ne peux pas faire quelque chose pour nous, parce
Exactement.
Que vous étiez dans les nouvelles technologies, mais à l'époque chez SFR, c'est ça?
Voilà, j'étais chez SFR, je m'occupais d'achat de nouvelles technologies, donc j'étais sur tous les projets innovants. En fait, au début, ils ne m'ont pas dit, est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous? Ils m'ont dit, est-ce que tu peux nous trouver quelque chose?
Oui.
Et on s'est rendu compte que des technologies de comptage, il n'y en a pas. Simple. Et donc voilà, donc on a travaillé là-dessus, ça a été beaucoup plus compliqué que prévu, puisqu'on a passé 4 ans de R&D pour aboutir à quelque chose qui marche bien.
Donc le projet naît, on est encore en 2014 quand vous vous lancez, c'est ça?
La société, on l'a créée fin 2014.
Ça marche dans le bus?
On accroche le badge, ça bip automatiquement, c'est en lien avec le chauffeur, ça on a bien compris comment ça marche. Aujourd'hui, il y a combien de collectivités qui vous suivent dans cette aventure ?
Alors, pas assez. Aujourd'hui, on a un peu de mal avec les marchés publics qui sont très longs, avec les collectivités qui en fait hésitent beaucoup à passer par le nouveau système, les 100 000 euros d'expérimentation projet innovant. Donc en fait, on n'en a trouvé aucune qui accepte de passer là-dedans. Donc donc c'est très long, ça c'est notre principal enjeu.
Il y a quand même quelque chose qui est en cours avec le Grand
alors,
Avignon.
Il y a l'île de Ré qui on est en train de déployer, le Grand Avignon. Donc là, c'est toute la communauté d'agglomération du Grand Avignon qui va équiper tous les primaires. Ils ont testé ça l'année dernière et donc ils ont décidé d'équiper tous les primaires. Et puis voilà, on a d'autres expérimentations en cours avec Saint-Étienne Métropole, avec Aix-en-Provence sur le transport d'enfants handicapés. Là, donc c'est un tout petit peu différent, mais voilà.
Sylvain, notre coach.
Qui paye quoi ? Je suis parent, j'ai envie d'équiper mes enfants, je ne paye rien, c'est gratuit, même pas le dispositif, ou je dois payer quelque chose, et qui finance ?
Alors, c'est comme tous les systèmes de validation qui sont depuis 5-6 ans installés dans les cars de transport scolaire. Les parents ne payent pas, et donc c'est la collectivité ou l'exploitant qui décide d'équiper ces circuits.
Elisabeth, que dit la loi en matière d'organisation des transports scolaires ? Ça serait bien qu'on fasse un petit point.
D'abord, le transport scolaire, c'est un service public local, normalement. C'est-à-dire que ce sont les collectivités qui disposent de plusieurs options pour gérer ce service. Donc, soit en direct, sous forme de régie, via une délégation de service public, ou encore par l'intermédiaire d'une société publique locale. C'est donc une liberté totale de gestion et les collectivités doivent faire preuve d'une grande imagination pour trouver justement des solutions. Alors certaines collectivités accordent la gratuité totale des transports scolaires, d'autres prévoient une participation des parents qui peuvent parfois aller jusqu'à la prise en charge totale des coûts. Ça dépend des collectivités.
Et puis, je crois que vous avez trouvé un système qui ressemble un petit peu, hein, même si c'est différent, à celui dont on est en train de parler, à Gemini, notre badge, qui fournit, là, pour le coup, des informations en temps réel sur le trajet.
Oui, ça s'appelle ToSchool. C'est un système...
Vous connaissez ?
Oui, ce sont nos principaux concurrents, plus gros que nous.
Il en faut. Ils permettent de fournir des statistiques sur le trajet du bus, sur la localisation en temps réel, l'identité des passagers, le nombre d'élèves par arrêt, les retards, l'état du trafic. Tout ça est possible grâce à un valideur connecté au cloud, du téléphone, d'une carte de transport sans contact qui est remise à chaque élève et le smartphone qui est posé à côté du conducteur d'autobus.
Sébastien, il y a quelque chose qu'on n'a pas précisé, et pourtant c'est capital, en tout cas ici sur Europe 1 dans la France qui bouge, c'est que vos badges sont tous fabriqués en France. Ça veut dire qu'on a les moyens de faire de la techno, y compris chez nous.
Alors oui, moi c'est un choix parce que c'était mon métier avant. Je pilotais des usines principalement en Asie, un peu au Maghreb. Et j'avais aussi un petit peu de production en France. Et donc quand on a lancé le projet... On a voulu, pour des raisons très rationnelles de circuits courts, mais aussi pour des raisons plus idéologiques, produire en France. Donc tout est produit en France, en Savoie. On a notre petit réseau d'entrepreneurs et puis on fait travailler un centre d'aide par le travail pour l'assemblage.
Bravo en tout cas pour le faire. Hein. C'est important parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui choisissent de délocaliser. C'est quand même bien quand on peut aussi faire travailler les gens sur le territoire français. On reste ensemble et on parle transport scolaire.
Il est 13h18. Europe 1.
Aller à l'école en bus ou en voiture, c'est aussi prendre le risque des bouchons. Alors, Schoolbus a développé le vélobus pour être en phase, là aussi, avec son époque. À tout de suite.
La France bouge continue. Quelles sont vos solutions pour emmener vos enfants à l'école ? C'est le dossier du jour et vous pouvez nous écrire, nous donner vos solutions. Hein. Twitter, @Europe 1. Vous pouvez nous appeler également hein, 3921. Ce numéro est le vôtre. C'est 50 centimes la minute, Raphaël.
Accompagner les enfants à l'école, c'est forcément aux heures de pointe. Alors, pour ne pas risquer d'être pris dans les embouteillages et aussi pour être plus écologique, un groupe d'amis de Rouen a eu l'idée de développer le vélobus. Bonjour Nicolas Catarino.
Bonjour et merci de nous recevoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des dirigeants de Schoolbus.
France. C'est, je crois, un de vos amis qui a eu l'idée de développer ce système quand il est allé aux Pays-Bas et qu'il a vu que là-bas, on se sert du vélo un peu pour tout. On est en 2014 ?
C'est ça, c'est ça. Donc l'inventeur du véhicule est aux Pays-Bas. Un de nos amis a vu ce véhicule alors qu'il faisait un stage aux Pays-Bas, qui est le pays du vélo. Et on a un groupe d'amis qui est issu du sport collectif, du hockey sur glace à Rouen, donc avec des valeurs qui sont très liées au sport collectif.
Ouais, qui marche bien le hockey, dites-moi.
Ça marche plutôt pas mal à Rouen, oui. Et donc on a souhaité pouvoir proposer un moyen de déplacement pour les enfants, pour faire du ramassage scolaire, pour les préparer à tous les défis qu'ils auront à relever dans le futur. Et l'objectif, c'est pas simplement de faire du transport, c'est surtout que le véhicule, c'est un outil pédagogique qui a été conçu pour les enfants et qui nous permet, nous, de faire de la sensibilisation sur des sujets qui nous paraissent importants pour eux.
Alors, vous ne nous l'avez pas amené, hein, le vélobus, mais on va essayer de schématiser. C'est un vélo, enfin, quelqu'un qui pédale, et puis il y a une sorte de carriole, on va dire ça.
Ça ressemble un petit peu à une Rosalie qu'on peut voir dans les stations balnéaires. C'est un peu la Ferrari de la Rosalie, vu que ça a été conçu pour les enfants. On a tous les dispositifs de sécurité qui sont nécessaires. On a fait homologuer le véhicule par le ministère de l'écologie et du développement durable en 2015. Et donc, on a 8 enfants, plus un conducteur, c'est le nom qui a été donné au chauffeur du véhicule, donc qui est un chauffeur et animateur également, puisqu'il fait de la pédagogie avec les enfants tous les jours.
Quand vous vous êtes lancé, vous avez fait ça par financement participatif pour pouvoir acheter le premier vélobus ?
C'est ça, ça a été notre première action importante, c'est qu'il a fallu pouvoir ramener les premiers véhicules pour faire de l'expérimentation. On a d'abord été une association pour tester le modèle, tester les bienfaits aussi que ça apporte aux enfants, parce que l'objectif c'était de se prouver à nous-mêmes déjà que l'idée qu'on avait mise sur le papier, elle était réalisable et qu'il y avait des vrais bénéfices pour les enfants. On a des enquêtes aujourd'hui qui nous prouvent que les résultats, ils sont excellents. On a 94% des enfants qui nous disent qu'ils sont très motivés pour aller à l'école en school bus, alors qu'ils sont seulement 46% quand ils y vont en voiture. Et puis, l'objectif pour nous, c'est vraiment de changer les mentalités sur les modes de transport, les modes de transport courts principalement. Et on se rend compte que 86% des familles qui ont utilisé le school bus font évoluer leur mode de déplacement vers des modes de déplacement plus inclusifs et plus écologiques quand c'est possible.
Vous étiez en association, vous êtes aujourd'hui en entreprise, parce qu'entre-temps, bah, forcément, il y a des collectivités qui se sont intéressées à vous, notamment en 2015, l'agglomération Seine-Eure. Elle a décidé de vous faire travailler. C'est ça qui vous a véritablement lancé ?
Ça nous a mis le pied à l'étrier, clairement. On était sur un fonctionnement en bénévolat, on vendait des actions de communication, de présence sur des événements pour pouvoir financer le dispositif et qu'il soit gratuit pour les utilisateurs. L'école est gratuite pour les enfants, ça nous paraissait logique que les moyens d'y aller le soit aussi. Donc l'agglomération Seine-Eure a eu connaissance de notre projet. Ils ont souhaité nous confier un marché d'expérimentation de 2 ans avec 3 véhicules et les résultats ayant été extrêmement positifs. Depuis le 1er janvier de cette année, c'est 10 véhicules avec l'embauche des chauffeurs, des conducteurs qui sont nécessaires à la conduite des véhicules qui sont opérationnels.
7 lignes sur 6 communes de l'agglomération et puis un modèle qui commence à être dupliqué. 10 lignes sur 6 communes.
C'est ça.
Un modèle qui commence aussi à être dupliqué.
Tout à fait. On a énormément de demandes. On a eu la chance d'avoir pas mal de médiatisation et de sollicitations médiatiques dans le passé. On a des vidéos qui ont fait plusieurs millions de vues sur Internet et on a des demandes aujourd'hui partout en France et partout dans le monde. Donc la nouvelle étape du projet, là maintenant, c'est on est en train de créer un nouveau partenariat avec l'inventeur pour pouvoir fabriquer les véhicules.
Oui, parce que pour l'instant, c'était fabriqué aux Pays-Bas.
Tout à fait.
Donc, ça en est où, ça, ce projet de fabrication ici en France?
Là, on est bientôt sur la clôture du business plan. On se fait accompagner par des réseaux d'entrepreneurs, puisque même si certaines personnes de la société ont un passé professionnel qui peut être dans ce métier-là, pour la société School Bus, l'industrie, c'est vraiment un nouveau métier. Donc, on a la chance de s'associer à l'inventeur du véhicule qui a un savoir-faire. Il développe ce véhicule-là depuis 10 ans. L'objectif, c'est vraiment de fiabiliser le véhicule et d'industrialiser le process de fabrication pour pouvoir répondre à toutes ces demandes qu'on a déjà aujourd'hui.
Ça vous plaît d'aller à l'école en vélobus, Sylvain ?
Moi, l'école est finie, heureusement. Mais est-ce que les aléas météo, est-ce que ça pose des problèmes à votre service ?
Alors, on a un toit sur le véhicule. Pour la petite anecdote, quand on a demandé au fabricant de nous fournir un toit, il nous a demandé pourquoi. Donc, on lui a expliqué que nous, on était normands et que ça pouvait être nécessaire. Il nous a expliqué que là-bas, même quand il pleuvait, ils mettaient un poncho, ils faisaient leurs 25 km de vélo et ça passait très bien. On peut comprendre que les mentalités ne soient pas les mêmes, donc on a un toit. Après, l'objectif, c'est quand même que ça reste un vélo, qu'on soit à l'air libre, on ne veut pas être dans une caisse complètement cloisonnée.
Donc la caisse est ouverte.
C'est ça. On a juste un toit sur le dessus et ça reste ouvert sur les côtés. Les enfants s'habillent comme s'ils allaient à l'école à pied ou en bus et s'il pleut. Et puis ça fonctionne très bien. Et généralement, ils sont même encore plus contents quand il pleut.
Elisabeth, des transports scolaires à vélo, vous en avez trouvé un peu partout.
Peut-être travaillez-vous avec la commune de Saint-Fort en Mayenne.
Saint-Fort en Mayenne, non.
Non, pas encore. Eh ben, pas eux encore, aussi, en depuis 2015, la solution, ce sont des vélobus. Il faut dire que la commune réunit deux pôles de 600 habitants. Les enfants qui habitent dans le bourg doivent parcourir 2,5 km, donc une vingtaine de minutes à vélo. Donc là-bas, pour se rendre à l'école, ils utilisent les vélobus. J'ai l'impression que c'est très, très utile, notamment dans les milieux ruraux.
Effectivement, alors on n'est pas en train de dire nous qu'il faut remplacer tous les moyens d'aller à l'école par des school bus. L'idée c'est qu'il y a vraiment des contextes où c'est extrêmement efficace, beaucoup plus que des cars de ramassage scolaire classiques. Cette ville, s'ils en ont fait l'expérience, c'est qu'effectivement le contexte s'y prêtait. Nous, on a fait une expérimentation à Rouen, donc là on n'est pas dans un secteur rural, on était vraiment dans le centre-ville de Rouen. Ça fonctionnait très bien. Là aujourd'hui sur l'agglomération Seine-Eure, on est plutôt dans du semi-rural, ça dépend des communes de l'agglomération sur lesquelles on est présent. Il y a toujours des lignes sur lesquelles ça va être intéressant dans toutes les communes.
On reste ensemble et on continue à explorer les moyens de transport scolaire aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1.
Alors, pour ceux qui refusent de prendre la voiture ou le vélo, eh bien, il existe aussi le ramassage à pied. C'est ce que fait l'appli Petit Bus. À tout de suite.
La France bouge avec le dossier du jour consacré au transport scolaire. Comment emmenez-vous vos enfants à l'école? Dites-le nous en nous écrivant sur Twitter à tout hashtag Europe 1. Vous pouvez nous appeler également pour passer, pourquoi pas, avec nous à l'antenne tout à l'heure, Raphaël.
Oui.
Le numéro est le 3921, c'est 50 centimes la minute.
Alors, quand on habite le même quartier, c'est vrai que c'est parfois plus simple d'emmener les enfants à tour de rôle. Encore faut-il avoir confiance. Alors, pour créer un système qui rassure les parents, une appli est née, Petit Bus. Bonjour Olivier Bertil.
Bonjour Raphaël, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous proposez, vous, de faire ce qu'on appelle du ramassage à pied. Racontez-moi comment est né le projet.
Alors le projet...
Approchez-vous un tout petit peu de votre micro, sinon on ne va pas vous entendre.
Le projet, il est né il y a 5 ans maintenant,
ouais.
Sur une réflexion de mobilité décarbonée, au sein d'un groupe en fait, qui est Engie. Des réflexions sur la ville intelligente, etc. Et des thématiques, voilà, vraiment écologie, décarbonée, mobilité. Et en s'intéressant à tout ça, on a vu qu'il y avait une pratique qui existait, qui était un peu marginale, en fait, un peu comme l'autostop l'était pour Blablacar, en fait, et qui était le Pédibus. Et on s'est dit que pour démocratiser tout ça, ce serait bien de créer une appli qui permette aux gens de se rencontrer assez facilement et de pouvoir dialoguer et discuter. Et ensuite de pouvoir s'organiser pour accompagner ensemble les enfants à l'école ou aux activités extrascolaires.
Du coup, Engie vous dit allez-y, développez.
Exactement. Et voilà, c'est pareil. On a commencé comme ça pendant 2 ans à peu près.
Mmh.
Et puis ensuite, maintenant, le projet prend son envol tout seul. Et donc, on est indépendant maintenant et on va construire de nouvelles choses.
Alors, vous avez bien précisé, ça existait quand vous vous êtes lancé. Pourquoi ça ne marchait pas? Qu'est-ce que vous avez changé au dispositif pour que ça fonctionne?
Alors, ce qui est difficile, en fait, c'est déjà de savoir, déjà d'y penser. De prime abord, déjà, ce n'est pas quelque chose qui est naturel chez les gens. Et une fois que ça commence à se mettre en place, c'est tous les jours, ce n'est pas forcément facile de s'organiser, de comprendre tous ensemble. Et donc, c'est vraiment un problème de confiance au départ, enfin de rencontre et de confiance ensuite pour s'entraider.
Donc, je regarde sur votre application, si dans ma rue, par exemple, sur mon trajet, j'ai des parents qui ont besoin que je ramasse, entre guillemets, leurs enfants en allant amener le mien à l'école, c'est
ça ? Exactement. En fait, le principe, c'est soit je crée mon propre trajet, si je suis un peu tout seul dans mon coin et qu'a priori, il n'y a personne, ça arrive assez régulièrement dans des territoires où on n'est pas encore très présent. Et puis, d'autres parents peuvent venir se greffer au fur et à mesure, permettant ensuite du coup, de s'organiser et puis de... Au bout d'un moment, ils partent parce que les enfants, ils changent d'activité scolaire, ils changent d'école, etc. Et donc, il y a un système au fur et à mesure d'administrateur dans l'application qui permet de gérer un peu ces aspects-là.
Sylvain ?
Comment vous financez ? D'où vient le chiffre d'affaires ?
Aujourd'hui, zéro. L'application, elle est gratuite, mais ça va changer dans les prochains mois. En fait... On avait à cœur d'abord d'apprendre, de constituer la communauté, de la faire grossir là-dessus, parce qu'on avait des partenariats possibles avec des villes, ce qui a été le cas. Donc, on a eu des sources de rémunération là-dessus. Mais les villes, c'est extrêmement compliqué de travailler avec les villes, avec les collectivités locales. C'est très long, ça prend beaucoup de temps. Et en termes de prospection, voilà, c'est compliqué. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, bah, à l'inverse, on a travaillé du coup au bout d'un moment avec, directement avec les parents. Ah, et puis là, la magie, c'est les villes qui viennent à nous. Donc en fait, dans l'autre sens, maintenant, on va pouvoir redresser ce marché-là. Et ce qui va se passer, c'est vraiment de faire des packs en fait, pour les villes, les associations, etc., pour qu'elles puissent faire bénéficier aux parents qui pourront l'avoir gratuitement du coup, de leur côté.
Elisabeth, justement, vous en avez trouvé des communes qui s'organisent à pied.
Oui, par exemple, à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, aussi, mais aussi à Asnières, à Fontenay ou Chaville. Ces villes-là ont mis en place des pédibus. Elles permettent donc aux enfants d'effectuer à pied leur trajet domicile-école avec un ou plusieurs parents accompagnateurs bénévoles, selon un itinéraire fixe, un planning concerté en fonction de leur disponibilité. Vous avez aussi la ville de Tarnos qui travaille avec une association terre buissonnière, association implantée à Bayonne, Tarnos, une commune de la région Nouvelle-Aquitaine. Et là aussi, en partenariat avec les collectivités locales et les écoles, cette association terre buissonnière développe des lignes car à pattes, ça s'appelle comme ça. C'est un dispositif d'accompagnement scolaire qui organise des groupes d'enfants et de parents qui marchent ensemble du domicile à l'école.
Olivier, vous êtes seul aujourd'hui
oui.
pour faire ce travail dans cette appli. Combien de parents inscrits ?
Il y a un petit peu plus de 12 000 parents qui sont inscrits. Après, il y a un turnover tous les ans, donc forcément, il y en a moins qui sont actifs au fur et à mesure. Alors, on peut considérer que là, il y en a à peu près 3 000 qui vont être actifs.
Et oui, c'est la rentrée en plus, ça va se réactiver. vous êtes essentiellement sur la région parisienne aujourd'hui ou
non.
Vous avez des parents qui se manifestent des quatre coins de France ?
Alors pour le coup, partout. En fait, dès qu'ils en entendent parler, c'est assez facile. Il n'y a pas de contraintes particulières, soit matérielles comme sur Schoolbus ou Gemini. Donc voilà, le problème c'est que parfois, si en amont on ne communique pas, bah, c'est très difficile pour eux de trouver d'autres parents. Donc on leur met à disposition des kits avec des affiches, des flyers à mettre dans les cahiers de classe, etc. sur le site internet. Mais on est présent un peu partout en France, essentiellement à région parisienne, Lyon, Bordeaux.
Grandes agglomérations.
Bah, autour des grandes agglomérations, mais aussi dans des zones un peu plus rurales. Et en Belgique, au Canada aussi.
On reste ensemble, on continue à parler transport scolaire aujourd'hui sur Europe 1.
Mais il est 13h36.
Europe 1.
Quelle solution vous faciliterait la vie pour emmener vos enfants à l'école ? On part transport aujourd'hui avec vous sur Twitter et au 3921. On vous attend et on est aussi allé vous voir dans la rue.
La France bouge continue avec le dossier du jour, les transports scolaires. Raphaël Duchemin.
Et nous sommes avec Olivier Bertil, fondateur de l'appli Petit Bus, Nicolas Catarino, co-dirigeant de Schoolbus, qui propose un service de ramassage scolaire par vélobus, et Sébastien Trémé, fondateur de Groupir, start-up parisienne qui commercialise Gemini, un badge connecté sous forme de porte-clés qui enregistre chaque montée et chaque descente de l'enfant du bus. Je voudrais vous faire écouter quelques témoignages recueillis dans la rue par Laetitia Farine, justement sur la question des transports scolaires.
Je m'appelle Marc et j'ai 39 ans. Alors j'ai deux enfants et comme on est séparés avec les mamans, il y a plusieurs problématiques quand les enfants sont chez moi et on habite plus loin de l'école. Alors là on fait un truc qui est complètement inavouable et un peu honteux, c'est qu'on y va en Uber. C'est vraiment un truc de con quoi. Mais en même temps le matin très tôt, j'avoue que prendre le métro ou le bus, attendre, ça me refroidit parfois un peu. Le covoiturage le matin à 7h30 avec les gamins un peu en retard, moi à peine réveillé, je le sens pas trop. Mais je comprends très bien la logique et je pense que ça va dans le bon sens.
Comment est-ce qu'on va convertir Marc qui a envie de répondre ? Nicolas ?
Ouais, je veux bien. Nous, on ne va pas avoir besoin de le convertir parce qu'un des avantages que je n'ai pas précisé sur le Schoolbus, c'est que l'enfant en fait est responsabilisé, c'est-à-dire qu'on vient le chercher devant chez lui, devant sa porte. Il connaît les heures auxquelles on va passer et donc on a un gain en autonomie. Les parents nous le confirment, c'est qu'il y a 80% des parents qui nous disent « Mais mon fils, il a complètement changé, j'ai plus besoin de le réveiller pour aller à l'école. Il est tellement motivé pour retrouver les copains sur le Schoolbus qu'il se prépare tout seul le matin. » Et l'autre facette, c'est que c'est avantageux pour les parents aussi, puisqu'ils nous disent en moyenne gagner 20 minutes le matin et 20 minutes le soir. Et leur enfant gagne aussi en autonomie. Donc je pense que c'est une réponse qui est intéressante pour les gens qui ont des vies assez mouvementées, assez denses.
Moi, j'avais une petite question là-dessus. Justement, ouais. Si l'enfant est systématiquement en retard ou si les parents ne font pas leur job en amont, il y, un petit système de notation non, pour les parents qui viennent.
Alors, on a des règles strictes, effectivement.
S'il y a toujours du retard, ça peut mettre toute la chaîne en retard.
Tout à fait. Donc, on est encore une fois dans l'esprit du collectif et du bien vivre ensemble. Donc, il faut que tout le monde se respecte et bah, que les premiers soient à l'heure pour ne pas mettre les prochains en retard. Donc, on est assez clair avec eux sur ce sujet-là au départ et on n'autorise pas beaucoup.
C'est la même chose pour vous, Olivier, sur Petit Bus ?
Exactement. En fait, on a le même genre de problématique. C'est-à-dire que les parents, ils ont envie de savoir ce qui se passe. Et donc, du coup, et les villes aussi, en l'occurrence, mais là, on parle directement des parents, c'est de savoir, en gros, quand est-ce que mon enfant, il a été... quand est-ce que le school bus, le pédibus, le car arrive ? Et puis ensuite, est-ce que mon enfant, il fait partie de l'équipe ? Il est monté dans le bus, il a pris le vélo-bus, ou il est avec la petite équipe de pédibus. Ouais. Et donc, oui, on a exactement le même genre de problématiques, c'est-à-dire voilà, de la géolocalisation en temps réel, ce genre de choses, pour pouvoir pallier ces problèmes-là.
On a des petits commentaires, je crois, sur Twitter.
Oui, ou des questions, d'ailleurs.
On a Olivier qui réagit à notre dossier du jour, qui revient sur le badge de gros pire. Il écrit que c'est une très bonne idée, mais se demande si cela ne fait pas trop de badge avec celui de la cantine, de la bibliothèque, etc. Il demande si une puce RFID intégrée au cartable n'aurait pas été plus simple.
Ah, bonne question, Sébastien. C'est peut-être l'étape alors, d'après.
on y est en quelque sorte, hein, parce que s'il a cette forme de porte-clés, c'est justement pour être mis sur un cartable. Nous, on intervient aussi, donc mis sur le cartable pour pas que les enfants aient à gérer une carte dans la poche qu'ils vont perdre.
Pour que ça se perde pas, oui.
Et puis voilà, on intervient aussi sur des marchés qui sont confiés par des collectivités locales pour un système plus global, bon, ça s'appelle la billettique, où effectivement il y a cette partie carte de transport, badge, et puis pour la collectivité locale, toute la partie, c'est ce que disait mon camarade tout à l'heure, des données qui vont remonter, est-ce les avances retard, combien d'enfants sont transportés, est-ce qu'il y a des arrêts qui ne sont pas desservis. Grand Avignon, par exemple, ils s'en sont beaucoup servis pour optimiser les durées de trajet, etc.
Sylvain ?
Pour les trois, donc vous pouvez répondre les uns après les autres. Hein. Vous êtes tous les trois une phase clé. Hein. Vous allez lancer des choses avec du chiffre d'affaires, ça va grandir. C'est quoi l'étape de rêve pour vous ? C'est quoi la cible ultime s'il y en a une ? C'est-à-dire, vous, que tous les parents de toute la France, qu'il y ait des school bus partout, tout le monde a un badge, ou c'est quoi la grande étape d'après ?
Qui a envie de répondre ? Allez, qui se lance ?
Pour nous, effectivement, pour school bus.
Vous, c'est carrément la commercialisation des premiers véhicules made in France.
C'est ça, made in France, de pouvoir en distribuer le plus possible. Encore une fois, notre ambition initiale, c'est de changer les mentalités sur les modes de transport en accompagnant les enfants. On a l'habitude de dire qu'il faut laisser une bonne planète à nos enfants, mais surtout des bons enfants à notre planète. Et c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours avec la pédagogie qu'on met en place. Donc au plus on s'étendra, au plus on va pouvoir participer à ce changement de mentalité, ce changement de société.
Olivier, Sébastien ?
En fait, allez-y. c'est la même problématique, en fait. C'est de faire en sorte que tous ceux qui, aujourd'hui, ils vont en voiture tout seuls à accompagner leurs enfants sur des distances qui sont relativement courtes, en France ou à l'étranger d'ailleurs, le fassent de façon active, donc soit à pied, soit en school bus, enfin voilà. Parce que là, on a gagné déjà un pari sur tout ce qui est l'obésité, la vie active, l'entre-soi ou le contraire, être tous en groupe. Donc voilà, c'est conquérir un peu toutes ces périodes de mobilité qui sont pour les enfants.
Sébastien ?
Alors, très vite, c'est croître suffisamment. On est la seule solution aujourd'hui qui n'utilise pas de carte de transport classique. Et donc, réussir à, entre guillemets, à persuader les collectivités locales que le transport scolaire, ce n'est pas du transport urbain, que les enfants ne sont pas des adultes, et qu'on peut leur laisser une certaine autonomie, mais qu'on est obligé aussi d'avoir des garde-fous. Donc, c'est enrichir un petit peu l'offre de transport scolaire, ne pas installer des billettiques classiques comme celle de la société que vous citiez tout à l'heure, mais essayer de faire un effort pour apporter un petit peu aussi aux familles et aux enfants eux-mêmes et aux conducteurs une solution globale, efficace et pas chère.
Je voudrais qu'on termine, Elisabeth, par des startups qui se sont lancées aussi sur le créneau, mais du covoiturage pour aller justement à l'école.
Oui, vous avez Car École, c'est une solution de transport scolaire pour les communes, hein, ils se présentent comme ça, c'est faire du covoiturage grâce à un service de petites annonces pour les activités aussi extrascolaires, hein, parce qu'on a tendance à les oublier, mais là aussi, c'est toute une organisation à mettre en place. Chaque commune, partenaire de Car École, dispose d'un site web Car École propre à la commune, dans lequel figurent tous les quartiers, les écoles. On trouve donc, on a la possibilité de trouver un conducteur ou des passagers qui habitent près de chez vous et qui se rendent aussi dans la même école que celle de votre enfant. Donc c'est pratique et puis c'est écologique.
Merci à tous les trois d'être venus par les transports scolaires en cette rentrée. Merci d'avoir été en direct avec nous sur Europe 1.
Merci beaucoup.
13h47.
Europe 1.
Elle est née en 1863 et depuis, c'est toujours la même famille qui la dirige, Bernardo. Et l'entreprise qui va bien, c'est dans un instant.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et on vous retrouve, Raphaël, pour l'entreprise qui va bien. Oui, et cette entreprise, c'est Bernardo. Bonjour Michel Bernardo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la cinquième génération à la tête de cette belle maison qui est connue et reconnue à travers le monde entier pour sa porcelaine de Limoges. J'entends encore d'ailleurs les slogans publicitaires hein, de quand j'étais jeune, quand je dis ça. Vous êtes presque figure d'exception, dites-moi, dans ce monde-là, parce qu'une entreprise familiale dans ce secteur, c'est assez rare.
Oui, il n'y en a plus beaucoup dans le monde, surtout des entreprises éponymes comme la nôtre. Donc c'est pour ça que j'y suis très attaché. Je suis très attaché à ce dont j'ai hérité à travers toutes ces générations qui sont succédées avant moi. Et puis je suis très attaché à faire en sorte que la société se pérennise.
Ça démarre en 1863. Au départ, c'est un monsieur Delinière, hein, c'est ça qui la crée. Et votre arrière-grand-père va décider d'abord de s'associer avec lui, puis ensuite de racheter.
Alors, je ne sais pas qui a décidé de s'associer, parce que, en fait, mon arrière-grand-père, donc, effectivement,
travaillait
dans l'entreprise. Et puis, petit à petit, M. Delinière lui a revendu son entreprise. Et puis, ça a prospéré, ça s'est développé avec des aléas, des périodes fastes, des périodes un peu plus compliquées. Et puis, on a suivi un petit peu l'histoire de France, hein. Les trois guerres avec l'Allemagne, la crise de 1929, puis les 30 glorieuses. Puis voilà, je suis là.
Vous avez eu des hauts et des bas. Vous diriez que c'est peut-être votre père qui a véritablement relancé la machine à un moment
donné ? Non, je pense que si vous voulez, on est lié un petit peu, encore une fois, à l'histoire de notre pays. Donc il y a eu des moments qui ont été compliqués dans l'histoire de notre pays. Parce que presque 160 ans d'existence, on a vu beaucoup de choses. On a vu aussi beaucoup de bonnes choses. Alors mon père, comme d'autres, si vous voulez, apporter sa pierre à l'édifice, moi c'est ce que j'essaye de faire aussi. Et puis à chaque fois, on a essayé de préserver l'ADN de l'entreprise, c'est-à-dire toujours essayer de ne jamais transiger avec la qualité, produire ce qui peut se passer le mieux au point de vue de la porcelaine, et puis rester très proche du monde de la création. Et je suis très fier que sur ces bases-là, Bernardo soit toujours là et soit un des exemples dans le monde de la porcelaine.
Si je parle de votre père, c'est parce que à la maison, il n'en parlait pas vraiment de ce qu'il faisait au travail. Et puis, vous découvrez véritablement, vous, l'entreprise, quand vous y entrez, vous avez 22 ans.
Oui, c'est ça. J'en connaissais peu de choses. Alors, moi, j'ai grandi à Limoges, donc c'était un peu compliqué pour moi quand j'étais à l'école, parce que les gens me posaient des questions. Donc, j'ai dû apprendre assez jeune la pratique de la langue de bois. Bon, maintenant, je sais quand même parler de mon entreprise quand il le faut.
C'est ce que vous faites effectivement avec nous aujourd'hui. Racontez-moi, la porcelaine, tout le monde sait comment c'est fabriqué aujourd'hui. On a appris, nous, Français, justement bercés par ces fameux slogans.
Bon, je sais pas si vous voulez, si tout le monde est au courant de la fabrication des différents produits ou des différentes marques.
C'est très long, voilà. 50
Alors, c'est un processus qui est complexe. La porcelaine, c'est un très vieux matériau. Hein. Ça vient de Chine il y a plusieurs milliers d'années. D'ailleurs, ça se rattache à la céramique, hein, à la terre cuite, qui est une des plus vieilles activités artisanales de l'homme, peut-être avec la fabrication des armes, si je puis dire. Et donc, nous, c'est beaucoup plus pacifique. Tout le challenge, c'est essayer de faire vivre un matériau qui est très traditionnel, en essayant de le renouveler. Et c'est un petit peu la force de Bernardo, de savoir trouver à chaque fois des inspirations, des styles, de rester très proche du monde de la création pour faire en sorte que ce soit renouvelé en permanence.
Quel est le secret de Bernardo, le secret de la porcelaine de Limoges ? C'est la cuisson, la double cuisson ?
D'abord, la porcelaine de Limoges a 200 ans d'existence. On s'est inscrit très vite dans le luxe, dans la qualité. On a bénéficié de tout ce qui est l'inspiration et du génie des arts décoratifs à la française. Donc, on représente une tradition, on représente un présent, puis on représente un avenir. Et tout ça, au niveau le plus haut, au niveau de la qualité dans le monde. Et c'est reconnu puisque nous travaillons à plus de 70% à l'exportation.
Que dit notre coach, Sylvain Lambert ?
Quels sont les pays où on est le plus friand de la porcelaine française ? Vous l'avez dit, elle vient de Chine, mais...
Alors, on travaille un peu partout dans le monde, beaucoup aux États-Unis, parce que les États-Unis ont été vraiment un des moteurs, si vous voulez, dans le développement de l'industrie porcelainière à Limoges. Mais on travaille partout, on travaille en Europe, on travaille en Russie, on travaille en Asie, même en Chine. Vendre de la porcelaine aux gens qui l'ont inventée, bon, imaginez que c'est pas forcément facile. Nous avons une filiale au Japon, nous travaillons en Amérique latine, un petit peu partout dans le monde. On a suivi un petit peu le développement de la richesse dans le monde. C'est vrai que la mondialisation, qui a des inconvénients, n'a pas que des inconvénients aussi, parce que ça crée une nouvelle catégorie de clients qui sont friands de marques de qualité comme la nôtre.
Bernardo, c'est 400 personnes, c'est ça?
Oui, à peu près, oui.
La suite,
tout fabriqué en France.
La relève, c'est quoi? C'est la sixième génération?
Oui, et puis on verra naturellement. Ben, vous savez, c'est une société familiale, naturellement, c'est quelque chose qu'on a toujours derrière la tête. Je crois que le plus important pour moi, c'est de faire en sorte que la société prospère et que se développe.
C'est le cas, vous embauchez aujourd'hui?
Oui, bien sûr, c'est le cas. Et puis... voilà, puis si jamais ça peut se passer dans un cadre familial, ce sera encore mieux. Et un cadre familial éponyme, ce sera encore mieux. Voilà, c'est un petit peu ce que je souhaite. Mais ce que je souhaite surtout, c'est que la société continue à bien se développer.
Merci Michel Bernardo d'être venu nous parler de l'histoire de Bernardo. C'est l'entreprise qui va bien aujourd'hui sur Europe 1. Merci à notre coach Sylvain Lambert. Elisabeth, on se dit à demain, dès midi, pour La France Bouge.
C'était Raphaël Duchemin. Dans un instant, on retrouve Christophe Ondelat sur Europe 1.
Europe 1. Raphaël Duchemin.